année, j'amorce la dixième année pour l'enseignement de Luc, croyez-le ou non. Ça fait maintenant 10 ans qu'on regarde les enseignements de Luc et on en est rendu au chapitre 9. Et je me rappelle, quand j'avais commencé il y a 10 ans, j'avais fait une prédiction, j'ai regardé dans mes notes, c'est vrai, que je finirais Luc quelque part en 2014. Je peux vous dire une affaire, je me revise aujourd'hui, ça devrait se terminer quelque part en 2026. Juste avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier Dieu pour justement le message qui s'en vient, et également pour deux jeunes filles qui amorcent un voyage important pour leur vie parce qu'ils s'en vont à Bethel pour un an. Et ces deux jeunes filles sont Priscilla Bélanger et Chloé Fortin. Donc, c'est un événement majeur pour leur vie. Je ne sais pas s'ils sont déjà partis. Non, ils sont déjà. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais ça. Pouvez-vous? Priscilla, es-tu là aussi? J'aimerais qu'on prenne un court temps de prière pour remettre ces jeunes filles à Dieu. Qui vont, vous savez, ils donnent un an de leur vie pour progresser dans la foi. Alors, on va prier pour eux, d'accord? Également pour le message. Seigneur Dieu, nous sommes heureux de voir ces deux jeunes filles qui ont décidé de laisser de côté un paquet de choses, de possibilités pour aller se former en toi, de vivre des choses fantastiques, et de progresser et de vouloir parler de toi autour d'eux. Ils veulent être consacrés à toi, Seigneur. Nous t'en remercions. Nous sommes très fiers comme Église que ces deux jeunes filles-là partent comme cela. Nous sommes heureux. Prends soin d'elles pendant tout ce temps-là. Prends soin aussi des fréquentations qu'ils vont avoir, des relations qu'ils vont avoir là-bas, pour que tout ça permette de les faire grandir en toi. Prends soin aussi des parents qui vont voir leur fille partir pendant ce temps-là et qui aient beaucoup de bonheur dans leur cœur de voir cette consécration-là auprès de leurs enfants. Nous sommes fiers comme Église que ce soit comme cela, Seigneur. Merci de les avoir attirés vers toi pour cette année-là. Et Seigneur, je te prie également pour que tu nous portes attentifs à ce que ta parole nous enseigne et que cette parole va nous emmener ce matin vers un chemin peut-être qu'on aurait aimé ne pas aller, mais que toi, tu as décidé qu'on y allait. Et Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies, nous allons écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Merci d'être mort sur la croix il y a longtemps pour nous, et tu es encore vivant et présent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous savez, l'avantage d'étudier un livre systématiquement comme Luc, c'est qu'on tombe immanquablement sur des passages qu'on aurait soit ignoré, oublié de prêcher ou qu'on aurait aimé ne pas prêcher. C'est exactement ce qui se produit ce matin. Et c'est pour ça que j'ai indiqué dans le bulletin le message que j'aurais aimé ne pas apporter. Juste de moi, je n'aurais jamais parlé de ce sujet-là ce matin. Mais étant donné qu'on était rendu à ce verset-là, et voilà, on va en parler. Et c'est un message qui a le potentiel, le texte, pas le message, mais le texte lui-même, les paroles de Jésus, a le potentiel de nous labourer le cœur. Partons avec cette attitude-là de se faire labourer le cœur ce matin, par Dieu. En fait, nous allons voir ce matin les versets suivants. Nous commençons au chapitre 9, verset 46 de l'Évangile de Luc. Chapitre 9, verset 46 de l'Évangile de Luc. Nous allons voir 8 à 9 versets seulement. Et ces versets, mes chers amis, marquent un point tournant dans la vie des disciples. Un point tournant négatif, pas positif. Négatif dans la vie des disciples de Jésus. C'est tellement important qu'on va y consacrer tout un message ce matin. Juste avant d'amorcer la lecture de ces textes, il faut revenir en arrière et regarder ce que Jésus, les réactions des disciples avec Jésus depuis le début dans l'évangile de Luc. J'ai fait le décompte. Et voici comment les disciples se sont comportés avec Jésus, leur réaction tirée uniquement de l'évangile de Luc. Chapitre 5, il y a une pêche miraculeuse. Ils sont épouvantés de voir Jésus. Ils ont une certaine conscience de leur péché. Malgré tout, ils laissent tout et suivent Jésus. Dans les chapitres 5 et 6, nous voyons des disciples qui sont critiqués par les pharisiens. Ils sont critiqués pour toutes sortes de choses qui se passent. Chapitre 8, ils sont enseignés par Jésus. Ils suivent Jésus partout. C'est très bien, n'est-ce pas? Dès le chapitre 8, encore une fois, ils sont effrayés parce qu'ils sont dans une tempête sur un lac, dans un bateau, et Jésus dort. Et il dit, « Réveille-toi, maître, nous allons couler. » Mais finalement, Jésus maîtrise la situation. Ils sont épouvantés. « Mais qui est donc celui-ci? » Ils ne comprennent pas qui est Jésus. Au chapitre 9, ils reçoivent le pouvoir de guérir. Fantastique. Un petit peu plus tard, il y a le miracle de la multiplication des pains. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Ils se promènent un petit peu comme ça, les disciples, mais en croissance. Un peu plus tard, au chapitre 9, Jésus déclare que Jésus est le Pierre déclare que Jésus est le Messie. Belle progression. Ils savent maintenant qui est Jésus dans son ensemble. Et un peu plus loin, Jésus leur apparaît sur la colline, transfiguré. C'est la transfiguration à trois des disciples. Et ils sont très surpris, ils sont estomaqués, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ces jours-là, que nous disent les Écritures, ils ne parlèrent point de toute cette aventure-là aux autres, à personne. C'est quoi l'image des disciples jusqu'à ce moment-là? C'est des disciples qui sont des apprentis, qui voient un Jésus, qui ne comprennent pas exactement c'est qui Jésus, mais qui décident de le suivre quand même. Ils nous ressemblent un petit peu. Vous savez, quand on est venu à la foi, on a suivi Jésus, parfois pas pour les raisons les plus évidentes. On ne savait pas vraiment que Jésus était le Sauveur et le Seigneur. On a peut-être été attiré par Jésus parce qu'il avait des paroles de sagesse. On est attiré par Jésus parce que, wow, il est mort sur la croix, ça prend un bon gars pour faire ça. On a peut-être été attiré par Jésus pour d'autres raisons qui n'étaient pas parce que Jésus était le Messie, le Sauveur et le Seigneur. Ça vous donne une idée du pouvoir d'attraction de ce bon Jésus-là? Jésus, c'est un aimant. Il nous aime et il nous attire. C'est un aimant. Nous sommes attirés vers lui. Et les disciples le suivent. Ils suivent une progression également. Cette progression-là, tout d'un coup, au verset 46, est cassée. Il y a une brisure qui se passe. Un élément négatif qui fait que cet élément-là n'est pas un événement isolé en soi. C'est un événement qui se répète à trois reprises dans trois situations différentes. Quel est cet élément, mes chers amis? L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel va se manifester de plein front envers les disciples. Et nous allons assister à une transformation d'eux pendant trois événements de suite. Alors, nous allons voir ces trois événements, mes chers frères. Et à chacun de ces trois événements-là, Jésus aura la même réponse. Non, ne faites pas cela, mes chers. Lisons 9:46. Ils se mirent, c'est les disciples, à raisonner entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Ils se mirent à raisonner entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. On n'a pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, hein? Vraiment pas. Ils s'argumentent les uns avec les autres pour savoir c'est qui le plus important. Ils ne se comparent pas aux disciples de Jean-Baptiste. Ils ne se comparent pas avec le monde. ils se comparent juste leur gang à eux autres. Dans notre gang, c'est qui le plus grand? Ils ne sont pas intéressés par la médaille d'argent. Ils ne sont pas intéressés encore moins par la médaille de bronze. Tout ce qu'ils veulent, c'est la première place du podium. Toi, Evelyne, la médaille de bronze pour eux autres, ce n'est pas important. La première place. La première. C'est qui parmi nous le plus important? Vous savez, l'orgueil, pour se manifester, a besoin d'une comparaison. Lorsqu'on regarde des exemples, nous en avons plusieurs. Au travail, qui n'a pas le meilleur travail, des avantages sociaux, plan de retraite, etc. Notre maison, qui n'a pas la plus belle maison et qui est située au plus bel endroit? Nos enfants, nous pouvons avoir de l'orgueil pour les enfants. Regarde-moi comme j'ai bien élevé mes enfants en comparaison d'un autre. On a de l'orgueil. Il faut faire ici une différence entre l'orgueil et la fierté. Je suis très content de l'exemple qu'on a eu ce matin. Ce qu'on a vu avec le papa qui se lève debout, ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Il n'y a pas de comparaison impliquée. Je suis fier de ce que ma fille a accompli. Où ça deviendrait l'orgueil, c'est « ma fille, c'est la meilleure, elle est meilleure que les autres, ça ne valent pas grand-chose. » Ça, c'est l'orgueil. Donc, on comprend la différence. Je ne parle pas de fierté ce matin, je parle d'orgueil. Ils s'enorgueillissent, ils se comparent les uns les autres, les disciples. Les arguments ne sont pas montrés, mais on va en supposer quelques-uns, OK? Moi, j'étais le premier à avoir appelé par Jésus. C'est moi qui étais dans la barque lorsque la pêche miraculeuse a eu lieu. Moi, j'étais sur la montagne et j'ai vu quelque chose, mais je ne vous le dirai pas. Nous étions trois. J'étais dans les trois. Moi, Jésus m'a dit quelque chose à moi tout seul. Je suis aimé de Jésus plus que vous. Quelle est l'attitude de Jésus face à cela? Simple. Verset 47. Consultez vos Bibles ou vos appareils électroniques qui contiennent la Bible. On est obligé de parler comme ça maintenant. Les iPod Touch puis les affaires comme ça. Verset 47. Jésus, qui connaissait leur raisonnement, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Jésus est en train de changer complètement le raisonnement des disciples. Vous cherchez à être les plus grands, cherchez donc complètement le contraire. Cherche donc à être petit. Puis utilise l'exemple de l'enfant. Un enfant, dans ce temps-là, ça ne valait pas grand-chose. Hein? C'est tout petit, puis c'est comme cela. Au lieu de te comparer et de chercher à t'élever, écoute, occupe ton temps à accueillir ce qui est plus petit. Ce petit enfant, car moi-même, Jésus, je suis un enfant, le Fils de Dieu. Je suis venu sur terre dans un habit très modeste en tant que petit enfant. Et je suis un serviteur. Et je ne suis rien, même si je suis le Messie, de glorieux aux yeux des hommes. Je ne suis rien de glorieux. Et c'est pourtant par ce Fils méprisé et petit qu'on va au Père. Cherche donc à être petit. Lorsqu'on lit ce texte-là, c'est clair que le rapprochement le plus direct avec nous, ce sont les disciples qui se comparaient entre eux. Bien, l'application, c'est nous autres qui se comparent avec nous autres. Pour mettre ça concret, nous autres, c'est ceux qui sont dans la salle, ici, qui se compare avec d'autres qui sont dans la salle ici. Est-ce qu'on se comprend très bien par rapport à ça? Oui. Vous savez, que nous sommes prompts parfois à nous comparer les uns les autres, pour toutes sortes de raisons. Je dirais, dans les 20 dernières années que je suis chrétien, j'en ai entendu de toutes les sortes. J'aimerais ça vous en donner quelques exemples aujourd'hui. Je suis davantage spirituel parce que je vais toujours à l'église. Moi, j'effectue ce ministère mieux que quelqu'un d'autre. Mes enfants sont mieux élevés qu'une telle. On m'a raconté que dans une église, ça c'est épouvantable cet exemple-là, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est fou, mais c'est vrai, que des chrétiens se sont tapés dessus, excusez-moi le terme, là, c'est ça là, qui est arrivé, pour choisir la couleur de la peinture des fenêtres d'une église. Un disait, il faut que ça soit bleu. L'autre disait, il faut que ça soit rouge. La grosse chicane, bleu, rouge, bleu, rouge, ok, tu veux que ça soit rouge. Ça va finir rouge, tu vas voir. Cette histoire est vraie. Il n'y a qu'un mot pour décrire cette attitude-là lorsqu'on est orgueilleux. Et je vais me servir du langage des sourds et muets à ma manière. J'en ai parlé justement au couple de sourds et muets auparavant. Je ne ris pas de personne ici. Ils ont mon texte. Et voici mon langage des sourds et muets pour comprendre l'attitude lorsqu'on est trop orgueilleux. OK, vous décodez ça? Pense que c'est ça? Oui, c'est le mot « loser ». Je ne l'ai pas dit. C'est une attitude de perdant. Pourquoi que c'est perdant? Je vais vous dire pourquoi. Dieu n'aime pas ça. Puis que Dieu va rabaisser les orgueilleux dans l'humilité avec un accessoire pris par Dieu dans la douleur. Dans la douleur. Ce passage-là se fait difficilement. Il y a quelques années, ici un exemple, il y avait quelqu'un qui avait affirmé, moi, je suis rendu pesant dans l'Église. Pesant, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, pesant. Ce que ça veut dire, ça, pesant. Pesant, c'est parce qu'il estimait avoir de l'influence. Moi, j'ai de l'influence sur les autorités, les pasteurs, les leaders. Je suis influent. J'étais très surpris d'entendre ça d'un chrétien. Très, très, très surpris. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi je cherchais à être pesant? Et malheureusement, il y a eu une dégringolade épouvantable par la suite qui est venue, tellement que c'est tombé à un niveau plus bas que beau. Et Dieu est intervenu. Quels sont les effets de l'orgueil quand on se compare les uns les autres à l'intérieur de l'Église, mes chers frères? C'est quoi? Vous avez des mots dans l'esprit. Division, querelle, tristesse, éloignement de Dieu. C'est important de vous dire que 9:46 vient tout juste après que Jésus a dit à ses disciples, « Je vais bientôt mourir. » Puis les disciples, tous qui sont occupés, ils sont éloignés de Dieu. Ils tous qui pensent à se regarder et à se comparer. Deuxième manifestation de l'orgueil des disciples. C'est celle qui se manifeste envers celle de d'autres croyants. Regardez avec moi le verset 49. Verset 49. Jean dit alors, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » On est donc rendu dans un autre registre ici. L'orgueil spirituel manifesté envers des croyants de d'autres qui ne suivent pas Jésus dans ce temps-là, qui étaient peut-être des croyants soit indépendants ou qui avaient entendu parler de Dieu, je ne sais pas. Mais ils se comparent avec ces autres croyants-là qui sont à l'extérieur de leur groupe. et tout ce qu'ils songent à faire. Chasser un démon, ça se peut-tu que ce soit une bonne affaire, ça? Ben oui, c'est très bien. Moins de démons, chasser des démons. Mais regarde, à cause qu'ils sont pas avec nous autres, faut les arrêter. Autrement dit, ils étaient rendus leur orgueil spirituel à vouloir stopper le bien que faisaient les autres. Nous sommes un peu comme ça, nous autres aussi, lorsque nous nous comparons à d'autres confessions qui professent le nom de Jésus. Vous connaissez tous la vieille histoire qui est connue depuis des années dans le milieu évangélique, mais je vais le reprendre, cette histoire-là. Vous connaissez tous cette histoire-là d'un baptiste qui décède et qui se ramasse dans le ciel et qui est accueilli par Enoch. J'ai mis Enoch au lieu de Pierre pour faire un changement dans l'histoire, là, pour dire que ça n'est pas trop vieux, l'actualiser. Donc, il est accueilli par Enoch. Puis là, Enoch lui présente l'ensemble des croyants qui sont là. Regarde, ici, ce sont des frères chrétiens. Et nous sommes heureux de te présenter ceux qui allaient à l'Église Nouvelle Vie ici. Et nous avons aussi des pentecôtistes et des... Oui, des catholiques, des... Des catholiques romains qui sont là. Là, le gars, il est tout épassourdi. Il dit, quoi? Mais où sont les baptistes? Ah, les baptistes, eux autres, sont toujours crus meilleurs que les autres. On les a isolés dans une salle à part. Mes chers amis, voici comment Jésus répondit à ses disciples. Verset 50. Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Je le relis une deuxième fois. Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Le contexte est clair et net. Et je vous avoue, c'est la première fois que je comprends ce verset-là en plus de 20 ans. C'est la première fois que je l'ai compris en faisant ce message-là. J'ai compris que non seulement ce n'était pas mon rôle d'intervenir dans le déroulement des autres églises, que ces gens-là faisaient de bonnes œuvres, mais non seulement ça, mais que cela tournait pour notre bien, à nous comme église. C'est en notre faveur, ça. Je me suis posé la question, pourquoi? Une des raisons que j'ai trouvées, c'est simplement que quand des églises, bien entendu, qui, je ne parle pas des témoins de Jéhovah ici, mais je parle des églises qui sont dans la vérité, parlent de Dieu autour de nous autres, d'eux, lorsque ça nous ouvre un chemin, lorsque nous-mêmes, nous serons en contact avec ces personnes-là, que le chemin est déjà déblayé en partie. Le nom de Dieu est manifesté, le nom de Jésus est manifesté, et c'est très bien. Je pourrais faire une petite comparaison avec le quartier 10-30 à Brossard. Le quartier 10-30, on a plusieurs magasins autonomes, mais le monde va là pour un magasin, par exemple, puis tant qu'à être là, on va aller voir les autres magasins. C'est un peu la même chose. On est tous autonomes les uns les autres, les églises, mais en parlant du même Dieu, on crée un effet de synergie. Ça veut dire qu'on est plus fort. Je vous avoue que pour moi, c'était une constatation. Réaliser ça, c'était un peu surprenant. J'ai dit, wow, maintenant j'ai une justification de dire, pourquoi il y a tant d'églises maintenant? Mais c'est parce que ça permet de glorifier le nom de Dieu et de faire avancer l'œuvre. Aussi simplement que ça. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, l'orgueil spirituel peut se manifester aussi envers le monde, envers les incroyants. Voyons le verset 51 et les suivants. Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et il y envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire? » Quelle belle façon d'aimer les gens que de les faire brûler. Tu nous nuis dans nos projets, nous allons te faire griller. Vous ne pouvez pas dire que je suis hors contexte, c'est exactement ça. Parfois, nous sommes tellement fiers d'être chrétiens que nous sommes prêts à poser des gestes qui ne sont plus dans les voies de Dieu pour montrer à quel point que nous, nous avons la vérité. Je me rappellerai toujours, lorsque j'étais converti en 1989, c'était dans une église très correcte, mais qui avait une croyance très ferme dans le respect du dimanche. Le respect du dimanche était très important et ça prenait la forme très concrètement de ceci. On ne va pas au restaurant le dimanche. On ne remplit pas notre auto de gaz le dimanche. Et on ne travaille surtout pas le dimanche. Je ne crois pas que c'est mauvais en soi, ces choses-là. Je ne crois pas ça. Puis si quelqu'un croit ça, c'est très bien. C'est lorsqu'on prend cette conviction-là, par contre, puis on la transforme en doctrine rigide, qui s'applique à tous les autres, que là, ils commencent à avoir des problèmes. Donc, moi, je suis parti de ça, je suis revenu au Québec, et qu'est-ce que j'ai fait avec ma mère? Je voyais ma mère balayer le dimanche, puis je chiolais après ma mère. C'est assez épouvantable, hein? Ma pauvre mère balayait en dessous de la table. Le dimanche, puis moi, j'étais là comme un bon chrétien, un bon flambeau de Dieu. « Maman, tu n'as pas le droit de faire ça. Dieu veut pas ça. » J'aimerais balayer cet épisode-là hors de ma vue. Disons, entre vous et moi, c'est pas trop fort. Ma mère, confrontée entre l'amour pour son fils, qu'elle m'aimait malgré tout, parce qu'une mère aime en tout temps. Et dans le malheur, elle se montre une mère. Et pris aussi avec l'absurdité de la chose. J'ai éloigné ma mère de Dieu pendant des années à cause de cela. Ça peut être vrai aussi avec nous autres. Lorsqu'on a des croyances spirituelles, des convictions spirituelles, qu'on est sûr que c'est vrai pour nous, puis qu'on essaie d'appliquer ça aux autres d'une façon mur à mur. C'est là qu'on peut avoir des réactions assez percutantes de la part des autres. Donc, on a vu les trois sources d'orgueil des disciples. Maintenant, nous allons examiner quelles sont les causes de cet orgueil. Je me suis beaucoup posé la question en faisant cette étude-là, mais pourquoi les disciples, tout d'un coup, sont-ils tombés dans l'orgueil spirituel? Pourquoi? Ça allait bien, là. Vous reculiez, vous avanciez, mais vous aviez une belle progression. Comment ça se fait que vous tombez aussi bas d'un coup sec? Que s'est-il passé? Et j'en suis venu à la conclusion que la présence simultanée de trois éléments dans nos vies pouvait nous amener à être plus enclins à tomber dans l'orgueil spirituel. Et ces exemples sont tirés du texte qu'on a vu aujourd'hui et en reculant dans l'évangile de Luc. J'ai cherché à comprendre cela et j'aimerais modestement vous les expliquer aujourd'hui. Juste avant de vous expliquer quels sont ces trois éléments-là, j'aimerais vous dire à quoi ça ressemble. Lorsque j'ai étudié à l'université, j'ai pris des cours sur les champignons. Deux cours à l'université sur les champignons. Je pensais que quelqu'un était pour dire, le style, voyons, as-tu du temps à perdre? Tu peux prendre deux cours de champignons à l'université? Bon, vous êtes bon avec moi. Donc, deux cours sur les champignons et M. Barron, qui était un Écossais qui parlait anglais avec un gros accent, qui parlait très, très vite. M. Barron nous avait expliqué qu'il y avait un champignon que lorsqu'on le consomme, il est très bon, mais rendu à un certain niveau, inconnu, le simple fait d'en prendre une portion de plus dans ta vie, c'est accumulatif, tu mourrais. Quand même assez spécial. Donc, le champignon est extrêmement bon, mais chaque fois que tu en prends un, tu ne sais jamais si ce n'est pas ta dernière portion. Tu ne sais pas. Mais il est tellement bon, mais il faut bien goûter. J'ai essayé d'appeler M. Barron pour savoir quel était le nom de champignon-là, mais il est mort, je ne sais pas de quoi. Pas vrai. Donc, vous comprenez le principe? Ce sont des choses que, isolément, n'ont pas trop de... OK, c'est correct, mais lorsque vous prenez ces trois éléments-là, vous mettez ça ensemble, ça fait un cocktail molotov dangereux et vous devenez susceptible à l'orgueil spirituel. Voici ces trois éléments-là pour ceux qui prennent des notes. 1. L'accès à la puissance, au pouvoir. 2. Je vais expliquer après, par la suite ces éléments-là. 2. Une compréhension de Jésus assez vaste, mais déficiente sur certains points. 3. Une approbation populaire et publique de la cause que l'on défend. Autrement dit, lorsque notre cause commence à être approuvée par le monde et les gens autour de nous autres. Je vous explique ces trois éléments-là. L'accès à la puissance et au pouvoir. Les disciples ont reçu le pouvoir de guérir. Ils étaient en contact continu avec Jésus. C'est très difficile, vous savez, de gérer le pouvoir. En situation de puissance, on oublie l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on a le contrôle, la puissance et l'autorité. On oublie l'humilité. Une compréhension de Jésus assez vaste, mais déficiente sur certains points. C'est exactement ce que les disciples avaient. Ils savaient que Jésus était le Messie, mais Jésus venait de leur dire, « Je vais mourir, je vais être livré aux humains. » Ils ne comprenaient pas cela. Et les versets 44 et suivants nous le montrent très bien. « Quand vous prêtez bien l'oreille à ces paroles, le Fils de l'homme va être livré aux humains. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Il y avait une zone de vue spirituelle, puis on la laisse. On la claire pas. C'est pas compris, mais on continue de fonctionner. On sait que Jésus est le Messie. C'est justement ça qui m'est arrivé avec ma mère, avec mes convictions ce dimanche. Voyez-vous qu'est-ce que ça peut faire auprès des gens lorsque notre doctrine est fausse et qu'on est convaincu qu'elle est vraie? Assurément que nous devons être enseignables comme Église. Nous devons être capables de recevoir les enseignements autour de nous pour nous montrer dans la vérité et éviter ici des problèmes. Et finalement, une approbation populaire et publique du ministère de Jésus. Juste avant le passage qui nous concerne, on a vu que Jésus, on n'a pas vu, mais la dernière fois on l'avait vu, que Jésus avait guéri un être possédé du démon. Et la réaction de la foule est la suivante. Verset 43. Et tous furent ébahis de la grandeur de Dieu. C'était l'approbation publique des actions de Jésus. Il est facile de s'enorgueillir, mes chers amis, qu'on était si longtemps dans le camp des perdants, qu'on était critiqué. Et tout d'un coup, on tombe dans le clan des populaires. Wow! Je suis dans le bon camp. Je suis associé au bon. Je fais partie de la bonne gang. Même chose lorsqu'on exerce un ministère. Et que ce ministère-là est approuvé par les gens. Les gens viennent nous féliciter. C'est merveilleux ce que vous faites. faisons bien attention. Nous pouvons créer des éléments qui font qu'on est plus sensible à l'orgueil spirituel. Voyons maintenant brièvement quelques solutions pour faire face à l'orgueil, tirées des textes que nous avons vus aujourd'hui. Un, se reconnaître petit. Se reconnaître petit. Vous avez commencé tous ici à genoux vos vies chrétiennes. Tous ici, nous avons commencé à genoux. Je veux dire par là que nous avons commencé d'un état qu'on avait, on s'est dû se plier devant lui, reconnaître la souveraineté de Dieu. On était à genoux pour l'implorer de nous sauver. Pourquoi alors marcher debout présentement? Quand tu es à genoux, tu es très humble. C'est important de se rappeler d'où ce qu'on vient. Je dirais, très simplement, considérez-vous aussi puissant que des vers de terre. Un ver de terre au service de Dieu. C'est humble, un ver de terre. Vous n'êtes aucunement supérieur aux autres personnes ici. Matthieu 18,4 nous dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Ça, c'est une belle promotion. Tu vas être grand dans le royaume des cieux. Sois humble sur la terre. 2. Cherchez l'humilité au lieu des premières places. Cherchez d'être humble au lieu de chercher d'être important. Moi, j'ai toujours admiré les laveurs de toilettes dans une église. J'ai jamais entendu un laveur de toilettes se vanter de son ministère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui? Tout le monde comprend bien. J'ai beaucoup d'admiration pour les laveurs de toilettes. Ça, c'est une position humble. Je ne dis pas que tout le monde doit être des laveurs de toilettes. Là. Puis ceux qui sont laveurs de toilettes, continuez votre job, on vous aime bien. Mais qu'importe le ministère que vous accomplissez, dites-vous que vous nettoyez des toilettes. Ça va vous aider à être humble. C'est une image que je donne aujourd'hui. Romains 12, 16 nous dit « Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Troisième solution, prenez exemple sur Jésus. Matthieu 11, 20 nous dit « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous être instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Personne n'a jamais été aussi humble que Jésus. Et Jésus veut nous attirer à lui par son humilité. Quatrième, savoir faire la différence entre ses convictions personnelles et les vraies doctrines. Faisons attention à ce que nous croyons et ce que nous voulons imposer aux autres. La conclusion est proche. Et je voudrais simplement vous dire que, tout comme les apôtres de ce temps-là, nous pouvons être aussi tentés par l'orgueil spirituel, tomber dans ces pièges, se comparer les uns les autres. Dieu, à chaque fois, dans le message qu'on a vu, a toujours rabroué les disciples par rapport à cela. Être dans le camp de l'orgueil n'est jamais gagné. Jamais gagner. C'est le contraire de la vie chrétienne. Vous voulez avoir une façon de vous distinguer par rapport au monde? Vous en avez un très bon moyen. Être humble et doux de cœur comme Jésus-Christ. Prions. Ô Seigneur Dieu, nous venons devant toi très petits. car nous savons de où ce que nous venons. Nous étions des pécheurs pardonnés avec toi. Et Seigneur, tu ne nous appelles pas à nous comparer les uns les autres et à se penser meilleurs que les autres. Tu nous invites constamment à l'humilité. Moi, Seigneur, je te confesse que l'orgueil, c'est présent dans ma vie et j'ai besoin d'humilité. Je ne veux pas, Seigneur, que tu me transformes avant de me faire passer par des douleurs grandes qui mèneraient mon orgueil à l'humilité. Mais Seigneur, j'aimerais ça que tu, par la prévention que tu me donnes aujourd'hui, le message que tu me donnes, qu'on puisse passer à l'humilité, Seigneur. Merci de toi-même, Jésus, d'avoir été humble en descendant de ton royaume grandieux, grandiose plutôt, pour venir sur terre et mourir sur la croix. Merci pour ton exemple pour nous. Amen.